c'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin, malheureusement. Albert Algou.
Bonjour.
Le beau Guillermo Gousse. Et notre invité est Élise Lucet.
Bravo.
Merci Élise de venir à ce micro. Ça fait longtemps que, entre guillemets, je vous cours après. Parce que on avait envie que l'émission se fasse avec vous.
Merci en tout cas.
Et comme vous annulez toujours à la dernière minute.
Non, elle a des tournages.
J'étais partie à Bruxelles. J'étais partie à Bruxelles en tournage pour Cash.
Cash.
Voilà. Désolée, au dernier moment.
Qui est une telle réussite. Cash Investigation, on va en parler. Également d'Envoyé Spécial, puisque ce soir, il y a un nouveau numéro d'Envoyé Spécial. Enfin, J'espère, Maréchal Ganache, que vous avez compris pourquoi Élise Lucet est notre invitée.
C'est pas gagné.
Affirmatif.
C'est pas gagné, non. C'est pas gagné.
On va voir. Affirmatif. Bien sûr que je sais pourquoi nous recevons Madame Élise Lucet.
Non, Lucet.
En français, Nagui, on prononce toutes les lettres.
Non.
Ne vous en déplaise.
On dit pas Paris, on dit.
Et moi, en région PACA.
À l'école, on m'appelait Lucifer. Hein.
Ah, oula. Très bien. C'est votre côté diabolique.
Voilà.
En plus, je suis très content d'accueillir Madame Élise Lucet.
Parfait.
Ce qui ne semblait pas être votre cas tout à l'heure, Nagui, puisque vous m'avez dit, je vous cite, « La Lucet ! Ah, déjà l'autre jour, c'était la Salamé. Ça commence à faire beaucoup de journalistes vedettes de France 2. J'avais dit que je ne voulais plus jamais en recevoir. Je suis pas d'un tempérament jaloux, mais là, je sens que dans cette équipe de bras cassés, il y en a qui cherchent vraiment à m'humilier. Il voudrait que je me foute le camp à Europe 1, comme d'autres, que je ne citerai pas, ils s'y prendraient pas autrement. Ceci dit, avez-vous ajouté, Nagui, en vous reprenant, en arrêtant de frapper vos collaborateurs, Élise Lucet est la coqueluche de la direction de France Télévisions. Je ne serais pas étonné que tôt ou tard, elle soit appelée à de très hautes fonctions. Donc, je vais prendre sur moi la couronne de compliments et en m'extasiant sur Envoyé Spécial et tout ce fait. Voilà ce que m'a dit Nagui, et je tiens à vous rassurer, Madame Lucet, il ne sera pas le seul ici à vous mouiller la compresse.
Ça va être pour moi.
Leïla Kadour-Boudadi, non contente de présenter le 20h certains week-ends, est obsédée. Complètement obsédée à l'idée de le présenter tous les soirs de la semaine. Et avant l'émission, elle m'a confié, vous savez, Ganache, Élise Lucet a le bras long. Je vais me la mettre dans la poche pour qu'elle m'aide à faire dégager Pujadas. En l'envoyant sur Gulli, où il sera raccord avec ses vestes de chez Jacadi et ses chaussures griffées bout de chou. Voilà.
N'importe quoi.
L'autre jour, c'était tartine et chocolat. Voilà. Ouais. Avec tout ça, je me rends compte...
C'était les coiffeurs Playmobil. Tu évolues.
Oui. Voilà. Je me rends compte que je n'ai pas fait le pitch dans l'envoyé spécial.
Oui. Non, le résumé, vous voulez dire.
Alors, le pitch.
Alors, c'est simple. Il s'agit d'une émission dans l'envoyé spécial.
Très bien.
Pour tout vous dire, je suis d'autant plus ému de vous recevoir, Madame Lucet, que ce titre, Envoyé spécial, me renvoie à un passé aussi martial que douloureux. C'était en 1954, en Inde.
Comme
à l'époque, j'en avais dans le froc, comme vous, Madame Lucet, j'avais été recruté par le service cinématographique des armées pour faire un reportage. En tant qu'envoyé spécial, j'avais été parachuté sur le fortin de Gang Bang Phoc, alors assiégé par les maquisards du général Suziwan. Hélas, les alizés me déportèrent avec mon parachute et je finis ma descente empalé sur un des bambous taillés en pointe qui hérissait un piège viet. Contre les viet.
Depuis
cette mutilation héroïque, j'ai du mal à rester assis plus de 3 minutes. Aussi vais-je devoir vous quitter en vous souhaitant une bonne émission.
Merci,
Majal. Sur France Inter.
Il y a eu Pièce à conviction, Cash Investigation, maintenant Envoyé spécial, avec des magazines tout aussi passionnants les uns que les autres. Et c'est vrai que la première question que l'on peut se poser, c'est comment réussir autant d'enquêtes, d'investigations, de reportages et de documents dans un minimum de temps en collant à l'actualité, parce que c'est la pression que vous avez, notamment quand on voit les sujets que vous allez aborder ce soir, avec la campagne d'Emmanuel Macron, avec les nouveaux électeurs du Front National, avec les enfants du califat, alors qui est peut-être des trois sujets celui qui pourrait être le plus intemporel.
Oui, absolument.
Malheureusement, parce que on aimerait que ce soit qu'une histoire d'une semaine.
On aurait pu le faire il y a un an ou deux ans.
Voilà, ouais. Malheureusement. Mais vous êtes dans la tension du rythme de l'actualité, avec quand même des moyens de documentaire et d'investigation.
En fait, si vous voulez, le documentaire sur Macron, par exemple, on l'a anticipé il y a plusieurs mois parce qu'on a senti le phénomène politique qui était était en route. Après, on savait absolument pas qu'il allait devenir président de la République. Mais en revanche, on sentait qu'il bousculait les appareils politiques et qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait, dans la rencontre avec les Français, quelque chose d'inédit. Donc, on a décidé, il y a plus de 6 mois, parce que les premières rencontres avec Jérôme Caza, Bertrand Delay ont eu lieu en octobre, de se dire que ça valait un documentaire quoi qu'il arrive. Mm-hmm. On se disait même que s'il perdait...
Même s'il perdait.
Oui, parce que même s'il perdait et s'il était éliminé au premier tour, c'était intéressant de voir ce phénomène politique et la manière dont il bousculait la vieille politique à la française.
Donc vous avez fait un choix éditorial sur Emmanuel Macron et pas le choix de se dire on va mettre 3-4 équipes, l'une va suivre Marine Le Pen, l'autre Emmanuel Macron, l'autre Mélenchon, alors, Fillon et puis voilà. On aura forcément le gagnant.
Très franchement, on a eu plus de difficultés avec les autres appareils politiques. On va se parler franchement, Mélenchon, non. Marine Le Pen, non. Peut-être parce qu'on a fait d'ailleurs une enquête d'envoyé spécial qui était très charpentée.
Dont elle a beaucoup parlé.
Sur les assistants parlementaires.
Elle a été votre meilleure attachée de presse finalement.
Peut-être.
Vas-y.
Et quand
c'est un document édifiant, il faut quand même préciser. C'est-à-dire que vous avez tout détricoté. C'est
un sacré
boulot incroyable.
Enfin, vraiment, c'était un vrai boulot de service public dans une campagne électorale, comme on l'a fait pour Big Malion, comme on l'a fait pour Pénélope Fillon. Donc inutile de vous dire que dans les rangs de François Fillon non plus, on n'avait pas très envie de nous accueillir. Donc on a plutôt choisi, en ce qui concerne le Front National, de suivre les électeurs. Mais c'est très intéressant aussi parce que ça décrypte un phénomène de progression du Front National.
Entièrement d'accord. Le problème dans votre rôle, dans votre métier, c'est que évidemment, lorsque l'on voit vous soulevez des couvercles où il y a des mauvaises odeurs dans quelques partis, dans quelques mouvements, on se dit que finalement, là où c'est payant, c'est quand vous soulevez des lièvres, y compris dans Cache Investigation.
Quand on prouve des choses.
Quand vous prouvez des choses et quand vous révélez des choses.
Bien sûr.
Quelle est pour vous la part de révélation dans le documentaire consacré à Emmanuel Macron, sachant en plus que vous arrivez avec une programmation particulière. Il y a déjà eu 2 docs qui sont passés, l'un sur TF1, l'autre sur France 3.
Mais France 3, c'était plus un doc déjà fait par Hurel il y a quelques années et qui a été rafraîchi, certes.
Pour ceux qui ont vu, parce que
TF1 a été monté dans la nuit.
J'ai envie de dire malheureusement, parce que c'est vrai que le deuxième tour est un tout petit peu bradé.
Si vous voulez, la plus-value, moi je trouve que le doc de TF1 était très intéressant parce qu'on était à l'intérieur d'une campagne électorale et qu'on en voyait les coulisses.
Il était très bien fait en plus.
Après, Yann Lénoré lui-même, il dit très clairement qu'il n'a pas une démarche journalistique, qu'il a une démarche de documentariste et qu'il suit une campagne et qu'il en révèle les coulisses. Donc on n'est jamais véritablement sur le fond de la campagne avec Emmanuel Macron. Il n'y a pas de questionnement. Il n'y a même pas de question. C'est-à-dire qu'il attrape des séquences, il attrape des moments qui sont très intéressants. Nous, la différence, c'est que Bertrand Delay a vraiment travaillé sur tout ce qui est politique, c'est-à-dire en quoi Emmanuel Macron est un personnage nouveau dans le paysage politique français. Et il a eu la chance, mais c'est pas que de la chance, parce qu'un bon journaliste est un journaliste qui a de la chance, mais qui a aussi du talent. Il a pu interviewer Emmanuel Macron à 6 moments forts de sa campagne. Donc on a commencé au mois de novembre, et ensuite, très régulièrement, il avait des rendez-vous avec lui pour de longues interviews. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que Emmanuel Macron décrypte lui-même sa stratégie, sa campagne, les entourages, la manière dont la droite s'effondre. Il nous raconte lui-même comment il voit la politique française. Et vraiment, là, on l'entend parler, on l'entend réfléchir.
C'est ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que dans le documentaire, et c'est pas parce que je travaille pour France 2, là encore, le documentaire TF1...
Ça saurait si tu travailles pour France 2, et ça saurait si moi aussi je travaille pour France 2.
Le documentaire de TF1, c'est un peu les yeux dans les bleus. C'est-à-dire que, ok, ce côté coulisses, c'est très intéressant. Mais là, moi, ce qui m'a passionné, c'est d'avoir ce candidat qui est maintenant, qui est notre président de la République.
Président élu.
Président élu, absolument.
Président de la République dimanche.
Dimanche, pour cette passation. Il n'y a pas de problème, j'y serai d'ailleurs, voilà. Mais ce que je veux dire par là, ce qui est intéressant, c'est de le voir parler vrai. C'est très très important. Tout d'un coup, il parle de la stratégie de communication, par exemple. Et il ne va pas faire comme si c'était pas du tout son affaire. Il va expliquer, mais on est tous en train de communiquer, on fait tous de la communication. Et j'ai trouvé qu'à un moment, il y avait dans ce documentaire quelque chose de...
Il parle sans filtre.
Il parle sans filtre quand il dit, par exemple, j'ai fait la une de tous les journaux, c'est vrai, mais c'est en fait parce que je suis un bon baril de lessive, je fais vendre.
Ouais. Et vous lisez pas les papiers à l'intérieur, où je me fais déchirer.
Voilà, et il a une auto-analyse sur lui-même.
Est-ce qu'il dit « je suis un bon baril de lessive » ou il dit « je fais vendre », c'est comme la lessive.
Il dit ça, mais vraiment, c'est ce que ça veut dire. Je suis pas dupe de ce qui m'arrive, et après tout, les Français, la plupart du temps, ils lisent les titres, ils regardent les photos, ils lisent pas les papiers, et voilà, je suis pas dupe de la manière dont les médias m'utilisent.
Ça, il le dit,
Mais il dit plein de choses dans ce document.
Il
qui sont phrase... parfois beaucoup plus profondes sur sa propre politique, et oui. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit à un moment comment lui a décidé d'être un personnage totalement singulier dans la politique, et plusieurs fois, par exemple, il engueule ses conseillers parce qu'ils n'ont pas compris un truc, ou lui-même s'interroge sur la manière dont il n'a pas compris quelque chose, et moi qui ai vu beaucoup d'hommes politiques, franchement, parce que j'ai présenté le JT pendant 26 ans, je trouve qu'il y a une nouvelle manière de parler, il nous parle sans filtre, il nous parle un peu comme nous, et on sent que cette stratégie qu'il met en place, il l'a en fait en tête depuis très longtemps.
Et puis surtout, il va au contact, il parle.
Il va au contact, ça oui.
Alors la présence des caméras, et c'est ça qui est fort aussi dans votre documentaire ce soir dans Envoyé spécial, c'est que la présence d'une caméra et de micro donc dans une salle de réunion peut influencer certaines réactions. Mmh. Et d'ailleurs, je sais pas qui fait le commentaire de
Bertrand Delay.
Voilà, Bertrand Delay le dit lui-même en disant visiblement ils réagissent de telle sorte.
C'est par rapport au fait que Fillon s'est maintenu. Voilà. Oui, Fillon annonce qu'il se maintient. Mais c'est important
dans le calendrier politique,
Fillon annonce qu'il se maintient alors que il a été mis en examen et que c'est un peu un moment compliqué. Donc on pourrait se dire que les équipes de Macron légitimement vont se réjouir parce que Fillon est quand même un adversaire important en termes d'intention de vote, en tout cas dans les sondages.
Et moins dangereux que Juppé pour eux.
Et voilà, le remplacement par Juppé là, ça serait vraiment la tuile. Et finalement, toute l'Assemblée qui est là, qui voit l'annonce, ne dit rien.
Ils sont genre, il s'est rien passé.
Voilà,
ils s'en vont comme ça.
On va l'écrire à la machine à café parce que là il y a une caméra qui nous
voilà,
filme. Ce que j'ai trouvé intelligent et fort dans le doc justement, c'est que Bertrand Delay le dit en disant soit ils minimisent leur joie, soit ils sont déjà au travail, soit c'est la présence de notre caméra qui fait qu'ils réagissent comme ça. Donc j'ai trouvé ça voilà, ce doc est intelligent pour avoir vu celui de lundi soir sur TF1 et l'avoir apprécié. J'ai également vu celui qui va passer ce soir. Faites-nous confiance, il y a rien de redondant. C'est même une couche en plus. Et pour la petite anecdote, c'est vrai que tu disais que c'était un peu les yeux dans les bleus lundi soir.
Et c'est pas péjoratif.
Mais pour l'anecdote, c'est la boîte de prod des yeux dans les bleus. Ah. Et c'est Jérôme Gaza, le réalisateur, qui fait le doc de ce soir.
Et moi, ce que je voulais dire, ce qui me semble important, c'est que quand on regardera cette élection d'Emmanuel Macron avec du recul, dans 5 ans, dans 10 ans, je pense que le document de Bertrand Delay sera vraiment comme une page d'histoire écrite où le principal acteur de cette page d'histoire la décrypte pour nous. C'est-à-dire, on est en plein milieu de la page d'histoire, elle est en train de se dérouler sous nos yeux, et on a le principal acteur qui nous raconte pourquoi il agit comme ça, pourquoi il lance telle ou telle stratégie. Et ça, on a rarement ça. C'est-à-dire que le document de TF1, c'est vraiment un moment de campagne. Dans 10 ans, ce sera peut-être intéressant, mais bon, ça le sera peut-être moins, je pense. En revanche, le document de Bertrand restera comme une page d'histoire politique écrite en télé.
Il y a un travail journalistique, il y a des commentaires, il y a des interviews. Ce n'est pas, encore une fois, qu'une caméra qui observe ce qui se passe, même si le montage est aussi un travail journalistique, évidemment, dans les yeux dans Macron qu'ils ont fait lundi soir. Mais là, il y a un vrai travail journalistique qui permet d'ailleurs, dans une interview, de faire dire à Emmanuel Macron et de faire ce parallèle entre la tauromachie et les élections présidentielles.
Et les primaires.
Où il dit que les primaires, c'est un spectacle pour faire monter l'ambiance.
C'est
la course de vachette. Et on a rarement vu une vachette gagner après dans l'arène, au moment de la tauromachie. Alors, je sais que beaucoup de personnes ne vont pas apprécier l'image le parallèle avec la tauromachie, mais au-delà de on aime ou on n'aime pas la tauromachie, le parallèle en tout cas fait entre les vachettes des primaires et le taureau qui va gagner dans l'arène est extrêmement fort. Ça fait partie de ces moments forts. Il y a d'autres moments forts dans Envoyé spécial. Là, on ne parle que du doc parce que c'est évidemment l'actualité brûlante de l'élection d'Emmanuel Macron, mais il y a également ce documentaire consacré aux enfants du califat dont je parlais tout à l'heure, qui est
les enfants perdus du califat,
totalement bouleversant parce que on voit à quel point les enfants sont endoctrinés, sont kidnappés, sont violés, des enfants de 6 ans qui sont proposés à la prostitution sur des applications ou sur des sites internet. Enfin, c'est extrêmement violent et surtout le parallèle est fait avec les jeunesses nazies.
Oui, et ça c'est Sophia Amara, la réalisatrice, qui vraiment a travaillé pendant de longs mois là-bas, et qui nous montre cette... Parce que c'est ce qui est frappant, c'est que souvent on retrouve ces enfants, elle les a filmés, après cet endoctrinement, qui se produit jour après jour, après cet enrôlement de force...
On en voit certains qui sont sauvés même, et retirés des griffes de Daesh.
C'est ça, parce qu'il y a des résistants magnifiques. Ça, franchement, je pense qu'on est les seuls à les avoir filmés, à les avoir
voire jamais filmé. Ce sont des gens qui développent une énergie de fou pour aller chercher ces enfants, les arracher aux griffes de Daesh, retrouver le frère ou la sœur d'un gamin qui est dans un camp de réfugiés, et ensuite vraiment essayer de recomposer une famille, protéger des enfants en les envoyant en exil plus tard en Allemagne, ouais, où ils sont accueillis et mis à l'abri. Donc il y a vraiment aussi quelque chose de positif dans ce document. C'est-à-dire qu'on voit à la fois tout l'horrible travail de Daesh pour endoctriner ses enfants, y compris en ce qui concerne les garçons, pour les envoyer faire des opérations kamikazes ou des exécutions sommaires. Alors que parfois, ils n'ont que 8 ans ou 9 ans. Donc on voit des enfants...
Il y a un petit enfant qui voit un film de quelqu'un qui est brûlé vif et qui dit « Ah, c'était formidable, j'ai adoré ça, ouais, et si j'avais pu, j'aurais moi-même mis le feu
C'était un pilote libanais.
Donc on voit la
destruction.
Je tiens à préciser, pardon, que les images sont visibles par tout le monde.
Par tous les publics.
Même si, ouais,
c'est moins de 12 ans. Franchement, on le dit, hein, c'est moins de 12 ans parce que le propos est extrêmement fort et qu'en fait, tout simplement, on montre des enfants.
Non, mais on a beaucoup d'élèves présents aussi et de ravissants ados, et j'encourage vraiment tous les âges à.
Et on a la représentante de Daesh qui voudrait bien qu'on voit aussi le
documentaire. Je voudrais bien qu'il se présente. Tiens, j'aurais bien avoir à faire... Enfin bon, bref, c'est bouleversant. Mais ce qui est bouleversant, c'est surtout ce parallèle-là, cette explication en disant c'est exactement le même endoctrinement que faisaient les nazis.
Et on le voit au travers des interviews de ces enfants a posteriori. Il y a notamment une fratrie de 3 enfants, moi qui m'a bouleversée, mais vraiment bouleversée, parce qu'il y a un tout petit, mais qui doit avoir 4 ou 5 ans, et on voit qu'il est psychologiquement détruit, les deux moyens et grands aussi. Et on voit, effectivement, ça là, le parallèle avec les nazis, avec les jeunesses nazies et les jeunesses hitlériennes, et vraiment, j'allais dire, c'est exactement ce qu'il fallait faire.
Non, mais même les images parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'avec les mêmes mitraillettes, on les militarise, on les entraîne, et on voit des images d'archives, et c'est exactement, déjà visuellement, c'est la même chose, et en plus, psychologiquement, c'est le même travail aussi dans d'autres.
Absolument.
Non, mais c'est fort, bravo, en tout cas.
Cette fratrie d'enfants, ça fait froid dans le dos, parce qu'on voit ces gamins qui ont été obligés de tuer quelqu'un, parce que c'est ça l'histoire.
Bien sûr.
Et c'est un âge où on n'imagine même pas qu'on puisse demander quelque chose de cet ordre-là aux enfants. Et on voit aussi comment l'école a été complètement détournée. On n'additionne pas une pomme et une banane.
Non, mais c'est
on additionne les des balles, des cartouches.
Les revolvers.
Même dans les manuels scolaires, ça fait son apparition. Donc ça veut dire que dès le plus jeune âge, on veut les cueillir. Et la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est se dire, mais comment se débarrasser de tout ça? Parce que c'est des générations et des générations qui sont en train d'être formées.
Après, moi je trouve des moments d'espoir formidables dans ce documentaire, c'est de voir comment ces résistants vont rechercher ces enfants, et ils sont, enfin franchement, ils sont que quelques-uns, et ça fait là
c'est
le parallèle.
Un tout petit pourcentage quand même.
Mais
d'enfants
oui,
sauvés.
Mais le parallèle est juste aussi, c'est qu'il y a, les jeunesses hitlériennes, les nazis d'un côté, et de l'autre côté, il y a des résistants. Et il y a des résistants aussi, et qui se sont vraiment fixés un but, un objectif, c'est d'aller sauver ces enfants.
Et il y avait des résistants allemands aussi, il ne faut pas l'oublier.
Ah, mais je ne les oublie pas.
Non, c'est vrai.
Je les oublie pas.
Quand on dit résistants comme ça, je tiens toujours à préciser qu'il y avait aussi, heureusement d'ailleurs, des résistants allemands.
Bon, c'est bien envoyé spécial ou pas ce
C'est vachement bien.
Ah, d'accord, okay,
ouais, c'est vachement bien.
Il ne faut pas oublier, pardonnez-moi, hein, mais dans Envoyé spécial, on a toujours ce souci d'équilibre, notamment en politique. Donc ce soir, il y a effectivement le documentaire sur Macron, mais
et
il y a aussi les électeurs du Front National. Avec nous, on a pris un parti qui était vraiment clair, c'était de se dire c'est dans l'ouest de la France que le Front National a beaucoup de mal à progresser, notamment en Bretagne, mais plus globalement dans tout l'ouest. Donc on est allé effectivement Fougères, Bretagne et aussi dans le Médoc. Alors la Fougères et la Bretagne, c'est plutôt des terres de gauche. Mmh. Le Médoc, c'est plutôt des terres de droite traditionnelles. Mais jusqu'alors, le Front National faisait vraiment des tout petits scores. Mmh. Et on est allé à la rencontre de ce qu'on appelle les néo-électeurs, c'est-à-dire ces nouveaux électeurs du Front National, et de voir pourquoi à un moment ils basculaient. Et de voir
entre la droite classique et le Front National, et l'extrême droite.
Entre la gauche et le Front National pour la Bretagne, entre la droite classique et le Front National pour le Médoc, et de voir que c'était une priorité pour le staff de Marine Le Pen, les cadres de Marine Le Pen, très clairement, elle leur a dit, alors là, on fait vraiment des très mauvais scores, donc il faut aller les chercher, il faut faire des actions, et donc on les a suivis avant le premier tour, pendant le premier tour, après le premier tour, pendant le second tour, et on entend ces électeurs du Front National, et je pense que c'est souvent aussi intéressant d'entendre les électeurs que les candidats
bien sûr,
eux-mêmes.
Bien sûr. Est-ce que la limite, justement, de l'exercice d'envoyé spécial n'est n'est pas dans ce côté investigation, enquête, et aller sur le terrain et prendre le temps, le recul et le montage et le travail. Et puis d'un coup, de voir que l'actualité au Front National, là maintenant, c'est peut-être, et même sûrement, la fin du parti tel quel. Les embrouilles avec Philippot, avec Marion Maréchal-Le Pen.
Oui et non, parce que vous savez...
ce qui se passe maintenant pour essayer de décrypter d'ailleurs.
Parce oui, mais dans les régions...
Je pense que même les électeurs ne comprennent pas ce qui se passe.
Dans les régions, ce qui se passe là en ce moment, c'est la bataille des législatives. Et justement, à la limite, celle de la présidentielle, elle est perdue.
Oui.
Mais les résultats des législatives sur le Front National vont être extrêmement intéressants à regarder. Et nous, comme on est vraiment dans la France...
Ça s'appellera encore le Front National pour les législatives ?
On verra. Moi, je pense que de toute façon, ils ont dit que le changement de nom, tout ça, se passerait après.
D'accord.
Hein, donc Marine Le Pen elle-même l'a dit...
Nous devons faire notre congrès.
au lendemain.
C'est en 2018,
mais le maréchal va nous expliquer tout ça très très bien, mieux que moi.
Il décrypte.
Écoute attentivement.
Il décrypte d'un œil, mais d'un œil aiguisé.
Mais de toute façon, ils ne peuvent pas changer de nom en un mois. Enfin, ça, c'est injouable. Là, le temps.
Ça serait suicidaire.
Le tempo est beaucoup trop court. Mais en revanche.
Ni changer de programme, si programme il y a, parce que là aussi, le flou est le.
Est-ce que tu l'as bien lu pour le juge ?
En tout cas, j'ai bien vu le débat du deuxième tour.
Non, mais il y a un programme. Enfin, ça, on ne peut pas le nier. Il y a un programme. Voilà. Après, dans le débat du second tour, là où vous avez raison, Nagui, c'est qu'elle a plus attaqué le programme de Macron que développer le sien. On est tous d'accord là-dessus.
Et puis, elle n'a pas été très claire sur le sien, y compris en termes de francs, d'euros, de monnaie, de partage, d'écus. Elle a inventé des chiffres. Enfin, c'était pas moi du G. Mais en tout cas, en revoyant...
J'en avais trop dit, monsieur.
En tout cas, c'est deux très bons documents ce soir. C'est pas le seul. Trois bons documents.
Non, mais parce que vous n'avez pas pu voir le Front National. Parce
qu'il était en montage encore.
Jusque cette nuit. Il a été fini ce matin, donc voilà.
C'est là aussi où on est sur le vif. Ouais,
mais il est bien fini ou il est bâclé
Non, il est bien fini, d'accord. Très franchement.
À propos d'ailleurs,
j'ai encore fait modifier encore deux trois petits trucs, mais les équipes avaient fait du super boulot, donc il est très bien
fini. Et qui signe celui-ci pour qu'on donne leur nom ?
Élise Menant et Yvan Martinet avec l'équipe d'envoyé spécial, parce qu'en nous on est une rédaction très collégiale, et donc quand il y a des coups de bourre comme ça et qu'on travaille tous sur un sujet, la rédac se solidarise, travaille et tout le monde aide tout le monde. Donc, mais les deux principaux journalistes, Élise Menant, Yvan Martinet.
Lorsqu'on vous annonçait la venue d'Élise Ducey pour parler d'envoyé spécial ce soir sur France 2 à 20h50, vos oreilles ont sifflé.
Premier temps, je me suis réjouie forcément. Et ensuite, quand je pense à vous, Élise Ducey, je pense forcément à la présentatrice du journal.
Fin de ce journal, très particulier pour moi, une page se tourne. Après 26 ans de JT à France Télévisions, dont 11 ans aux 13h de France 2, plus d'un quart de siècle à sentir battre le cœur du monde au quotidien. C'est un privilège incroyable, mais aussi une grande responsabilité, celle de vous informer au mieux, de décrypter, de vous transmettre l'actualité en tentant de trouver les mots justes et de garder la bonne distance.
On était le 29 avril 2016, c'est pas si vieux, votre dernier 13h et une conclusion qui sonne un peu comme un cours de journalisme, ou en tout cas un rappel à l'ordre, une envie de dire au public que la mission de journaliste, qui comme certaines professions est souvent décriée, surtout en ce moment, on n'est pas tous obligés de l'exercer avec légèreté.
Ah non, moi je l'ai jamais exercé avec légèreté en fait.
Certains sont taxés de le faire.
Mais je vais vous dire franchement, j'adore mon métier. Il nous arrive de nous marrer comme des baleines, vraiment, parce que c'est toujours mieux d'ailleurs de faire son métier en se marrant. Mais en revanche, oui, sur le sens de la responsabilité, attendez, on parle à des millions de téléspectateurs. On est service public. On a un devoir d'équité, d'équilibre dans ce qu'on raconte, évidemment de rigueur. Ça c'est
enfin de base.
Là-dessus, c'est sans pitié. Tu as vérifié ce chiffre une fois, deux fois, trois fois minimum, si ça.
Des sources différentes pour être sûr.
On n'en est pas à deux, on en est plutôt à trois ou à quatre. Et puis véritablement ce sens profond de se dire on travaille pour les téléspectateurs. Les gens, ils payent une redevance. Et moi, les plus beaux compliments qu'on m'ait fait après des numéros de cash ou des numéros d'envoyé spécial, c'est je suis content de payer ma redevance quand je regarde Envoyé spécial ou quand je regarde Cash Investigation. Et ça, franchement, moi, il n'y a pas de négociation là-dessus.
Et vous n'aviez pas ce retour-là quand vous présentez le journal.
Parce que le journal, c'est
un style que vous avez imposé, que vous avez d'une certaine façon créé et qui est apparu sur le paysage audiovisuel grâce à vous. Oui. C'est tout d'un coup, on mène l'enquête et puis on se contente pas de juste dire des choses. On va taper aux portes, on va interpeller les responsables, les dirigeants, et on les met face à leurs responsabilités et on montre montre ça au public. Le journal, c'est quand même un exercice un peu différent où
c'est très différent.
La liberté.
C'est très différent, mais en revanche, là où je serais sans pitié aussi, c'est sur la rigueur. C'est ok, le journal, c'est quotidien, mais vérifier tout ce qu'on peut dire, peser chaque mot dans un JT, c'est hyper important. Moi, souvent, je me suis dit, je fais le JT à la fois pour le président de la République, les opposants, mon voisin d'à côté, ma cousine, et ou la personne qui peut être impliquée.
Un enfant ou un adulte, quoi.
Un enfant, un adulte, ou la personne qui peut être impliquée dans le drame dont je suis en train de parler. C'est-à-dire ce respect-là. Moi, parfois, au moment où les chaînes Tout Info sont apparues, j'ai eu un sentiment de charognard de l'info.
Un problème de décence, ouais.
Et donc ça, c'est juste pas possible. Et quand on a, par exemple, été confronté comme moi...
C'est l'infospectacle, c'est faire tourner en boucle des images.
Alors, c'est, moi, pour moi, c'est deux mots qui vont pas ensemble. C'est impossible de mettre ces
mais
mots-là.
Mais eux vivent de ça. Ouais, donc
ils ont besoin de ça. Ça a changé. Franchement, sur les chaînes d'info, il y a quand même eu on a un peu resserré les boulons parce qu'il y a eu de telles dérives, notamment au moment des attentats. Et d'ailleurs, nous-mêmes, à France 2, on s'est posé des questions sur le moment des attentats ou sur ce qu'on avait bien fait, pas bien fait, etc. Mais cette responsabilité-là, franchement, il faut l'avoir vraiment en tête. Après, ça n'empêche pas, encore une fois, moi j'adore faire ce métier, d'avoir cette envie folle de transmettre aux autres, d'enquêter pour les autres, tout ça. Mais cette rigueur-là, il ne faut jamais l'oublier, le sens de la responsabilité non plus.
Et quand vous parlez justement là des attentats c'est, et de l'apparition des chaînes info, c'est aussi le danger pour les chaînes de service public aussi de se dire au niveau de l'info, on fait la course à ça, ce qui peut conduire à des dérives.
Oui, alors oui, vous avez raison. Mais d'abord, il y en a eu beaucoup moins qu'ailleurs. Il y en a eu quand même chez nous. Et on s'est fait, après les attentats, des débriefings où, par exemple, sur des témoignages sensibles, moi j'avais eu la sœur du jeune homme qui était cachée dans l'imprimerie au moment où les frères Kouachi au téléphone en direct. Et ça, c'est quelque chose qu'on fera plus jamais. C'est prendre un témoignage aussi sensible que celui-ci en direct. Il y a eu débriefing derrière et là, tout le monde a dit direction de l'info, rédacteur en chef, la régie, c'est fini. On prend plus ce genre de témoignage en direct. C'est beaucoup trop dangereux. On est en train de pouvoir mettre en danger
la
les gens.
De quelqu'un,
voilà.
À ce micro, Boris Cyrulnik nous expliquait que l'un des torts des chaînes Tout Info était de montrer les photos des terroristes, donner leur nom et en faire des espèces de héros.
Bah, c'est un vrai débat. Moi, je suis pas tellement sur cette ligne-là. À France Télévisions, on l'est pas. On donne effectivement les noms. Après, je vais vous dire, on va pas faire des beaux encadrements de photos et mettre leur nom, voilà, en lettres d'or. Pas du tout. Mais je pense que c'est une information parce que...
Non, mais de savoir que ces terroristes font tout aussi pour être reconnus comme martyrs, pour exister, pour avoir leur moment de gloire en se sacrifiant, en se suicidant et en allant tuer les autres. Est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser sur cette communication-là?
Le parcours d'un
terroriste. Et à quoi est-elle utile?
Le parcours d'un terroriste. Alors, montrer une photo, moi je pense franchement que on fait un média d'image. Donc on montre des photos et on les montre pas toujours. On a toujours, moi en conférence de rédaction, jusqu'à l'an dernier quand on était dans les JT, on était tout le temps en train de se dire, est-ce qu'on montre, est-ce qu'on montre pas, est-ce qu'on floute, est-ce qu'on floute pas.
On n'arrange pas le délit de faciès en montrant des photos, parce que d'un coup il y a toujours quelqu'un qui ressemble à un autre, il y a toujours un look, il y a toujours une barbe de trop, il y a toujours un regard plus méchant qu'un autre. Enfin, c'est, puis c'est des photos d'identité, c'est rarement des photos de vacances où on sourit.
L'information sur France 2 ne se limite pas à une photo. Pardonnez-moi, en général, on décrypte. J'entends, mais justement, il ne faut pas se limiter à ce point précis, parce que si on montre une photo à un moment, il y a aussi un travail journalistique autour, qui est un vrai travail. Sur un terroriste, par exemple, ce qui est toujours très intéressant, c'est le parcours. Savoir à quel moment il a pu basculer, pourquoi, comment, est-ce que c'est en prison, est-ce que c'est parce qu'il vivait dans une cité, est-ce que c'est parce qu'il s'est passé autre chose dans sa vie, est-ce que c'est un Français, est-ce que c'est quelqu'un qui est venu de l'extérieur.
On n'a pas le temps de le savoir, ça, au moment de l'info, au moment où ça sort.
Oh, mais vous savez, les photos, on ne les a pas forcément à la seconde, mais loin de là.
Puis ne pas
en général, on les à 24 ou 48 heures après, et le parcours justement, on l'a aussi.
Et puis ne pas montrer parfois, c'est aussi une forme de c'est d'ajout à la diabolisation, c'est-à-dire que c'est imaginer, c'est fantasmer, là c'est une information, le travail des journalistes c'est de communiquer des informations qu'on est autorisé à communiquer, parce que ça se fait en vraie discussion, au niveau de la rédaction c'est pas une décision individuelle du présentateur, c'est vraiment collégial. Et c'est fait de façon responsable.
À chaque fois en conférence de rédaction, ça discute énormément. Beaucoup. Mais vraiment énormément. Et c'est toujours bien qu'on ait ce genre de discussion. Et c'est toujours bien de se poser cette question. Après, chacun peut avoir... Je sais que Le Monde avait décidé à un moment de ne plus citer le nom des terroristes et de ne plus montrer leurs photos. Chacun a une position différente. Mais c'est pas si facile que ça. Parce que vous voyez, dans la presse, personne n'a eu une position commune là-dessus.
Élise Husset, notre invitée, avec, on parlera aussi de Cache Investigation, parce que je suis un fan total de cette émission. Tous les sujets abordés sont d'une intelligence, d'une force. Oui, pardon?
Non, juste envoyé spécial, Jean-Pierre Canet, Séverine Lebrun, mes deux Red Chef, ils bossent comme des tarés, donc j'ai envie de les citer.
Oui, mais là, ils sont en dépression, là, maintenant, puisqu'ils ont fini de monter.
Ils sont peut-être en petite sieste. C'est possible. Je crois même pas, d'ailleurs.
Ils roupillent pendant qu'on vérifie les PAD. En tout cas, c'est ce soir, 20h55, sur France 2, envoyé spécial. Voici l'humeur de Guillermo Guiz. Aval. Bonjour les amis.
Bonjour. Non.
Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Alors, dans votre immense sagesse de petit Bouddha cocaïné, et
pas pour toi.
La seule que je ne vise pas autour de cette table, c'est Élise Lucet, évidemment, qui ne fait que dealer, comme chacun le sait. La drogue à la mode chez les hommes d'affaires et les politiques véreux, c'est l'adrénaline, évidemment, quand Élise les traque. C'est quoi ton truc, la coke, le speed? Non, c'est Cache Investigation. Ça te fait des kicks, mon ami. Bref, dans votre sagesse, donc vous savez naturellement que ce 11 mai, c'est la journée mondiale des espèces menacées. Ah. Et voilà. Ah, ouais. Honnêtement, je suis évidemment tenté de vous faire des vannes sur les députés socialistes. Mais bon, hein, à quoi bon m'offrir encore un nouveau triomphe?
Facile en plus.
C'est vrai, les chroniques à succès, le public d'Inter qui veut rentrer dans mon slip, Leïla qui me rajoute sur Facebook, tout ça j'ai connu, je suis déjà au-dessus de tout
vrai.
Ça. Est-ce que ça nous grandirait vraiment en tant qu'humain que je vous parle des 1000 espèces menacées en France en faisant allusion aux cheveux de Daniel Morin? Est-ce que cette société-là qu'on veut pour nos enfants, vraiment, c'est ça que je pose comme question. Ceci dit, il n'y a pas de hasard, parce que j'ai lu hier que des scientifiques texans, je vous promets que c'est vrai, avaient risqué d'avoir trouvé enfin un remède contre la calvitie et les cheveux gris. Ah. Elle est pas belle la vie, mon ami?
C'est trop tard.
Vous imaginez peut-être que dans l'élan, ils trouveront l'enzyme de l'humour de camping, et je veux dire, pour vous, tout n'est pas perdu, quoi, finalement.
Camping!
Et en parlant d'urgence absolue, cette journée mondiale des espèces menacées rappelle aussi que les changements climatiques sont beaucoup trop brutaux en fait pour les animaux. Apparemment, il y a certains vertébrés qui auraient besoin d'un million d'années, je vous promets, pour s'adapter à une hausse de température de 1 degré de moyenne. 1 million d'années. Alors la bonne nouvelle pour Manuel Valls, c'est qu'il n'a rien à craindre puisqu'on parle d'animaux vertébrés. Tout ce qui est colonne vertébrale, dignité, etc. Donc, tiré d'affaire. Mais l'autre bonne nouvelle, elle est pour Nagui, évidemment, puisque ce sont les animaux les plus petits et les plus flexibles qui s'adapteraient le mieux, apparemment.
La preuve.
Ouais, voilà, il est là. Mais pour les autres, c'est plié. Les biotopes évoluent beaucoup trop vite par rapport à leur morphologie. Je veux dire, quand t'as un tapir ou un phoque de Barbarie, tu peux pas te dire du jour au lendemain, tiens, je vais essayer avec des branchies. On va voir ce que ça va donner. You only live one yellow, etc. On verra bien. Mais forcément, dans le monde animal, un poumon, ça se change moins vite qu'un joint de culasse, forcément. Y a aucun animal qui se dit, tu sais quoi, mon délire à moi? C'est de devenir ovipare. Franchement, l'occasion fait de l'avant. Je sens demain, je me fais poser des ailes en titane, un moteur à réaction et je me barre au Costa Rica, mon ami. Non, les changements morphologiques, ça prend des milliers, des centaines de milliers d'années chez cette bande de bras cassés. Chez nous aussi, par parenthèse, sauf qu'on a inventé la clim et les digues de mer, quand même. Je veux dire, s'il y a des vertébrés qui nous écoutent, j'ai envie de leur dire à cette bande de branleurs qu'ils ont intérêt à changer d'attitude et à moins le prendre de haut parce que climatiquement, le changement, c'est maintenant. Trump, là, il hésite à tenir ses engagements sur les accords de Paris et Macron, comme chacun sait, a fait de l'écologie sa priorité numéro 1, juste après le retour de Dominique Rocheteau en équipe de France. L'écologie, tu sens que ça lui en touche une, mais l'autre, elle reste vraiment fixe, quoi. Donc, ça sent pas bon, parce que les scientifiques sont en train de se dire qu'on était beaucoup trop optimistes, en fait, apparemment, à la COP21. À Paris, les États, ils ont fait, ça va aller. On est large. On va tenir la hausse des températures à 2 degrés, peut-être même à 1,5 degré, je pense. Et on dirait moins quand je suis coincé sur le périph' et que j'envoie un texto en disant, je suis là dans 10 minutes. Là, je cherche une place pour me garer. Ouais. À ce moment-là. C'est vraiment ça. Du coup, pour s'adapter à une hausse plus importante encore que prévu, certaines espèces, ils devront évoluer genre 10 000 ou 20 000 fois plus vite que par le passé. On est en pleine macronisation de l'évolution, en fait. Vraiment, c'est ça. Vous vous rendez compte? Même la nature va devoir subériser pour survivre à la mondialisation. C'est terrible. Et peut-être là, la bonne nouvelle, finalement, pour les travailleurs de France, c'est que dans les manifs, ils pourront chanter « Les animaux, avec nous !» Et ça en fait du monde, quoi. Et bonne émission, les amis.
Merci, Guillaume. Merci. Déjà une information, une vraie information, Guillaume Guiz envoie des textos quand il roule sur le périph', donc faites gaffe si vous croisez, t'es matriqué en Belgique, rassure-moi, on peut te repérer comme ça.
C'est ça l'avantage d'avoir un chauffeur.
Élise Husset, vous êtes ce soir donc avec envoyé spécial à 20h55, les plateaux sont en direct parce qu'il y a trois documentaires.
On les a enregistrés hier sur les Champs-Élysées avec Ségolène Royal. Pour être tout à fait honnête avec vous, on a essayé d'inviter beaucoup de gens. mais beaucoup, hein, et ils se sont tous défilés.
Pourquoi donc ?
Alors, bon, je voulais la dernière interview de François Hollande à l'Élysée. Il a décidé de ne pas en faire en télévision, en tout cas. Enfin, peut-être va-t-il en faire une d'ici à dimanche, mais pas pour nous, pas pour Envoyé spécial. Et après, on a demandé à tous les challengers de la présidentielle, notamment à Jean-Luc Mélenchon, parce que ça nous semblait très intéressant, après un documentaire sur Emmanuel Macron, d'entendre la parole de Jean-Luc Mélenchon, et avant les électeurs du Front National. Donc là, pour le coup, on aurait été assez complet, et impossible. François Bayrou, impossible. Manuel Valls, impossible. Enfin, personne ne veut parler en ce moment. Ils sont tous dans un... On les sent comme un peu crispés. Un peu genre, je ne bouge pas.
Ils attendent quoi, la nomination du Premier ministre?
Je pense, oui, je pense. J'ai demandé à Alain Juppé aussi, parce que pour la nomination du Premier ministre, très intéressant. Il m'a dit que c'était pas le moment, voilà. Ségolène Royal a dit oui.
Et donc elle sera ce soir dans
Mais oui, 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 elle est assez passionnante d'ailleurs.
De toute façon, quand on est en galère, on appelle Ségolène Royal ou Jack Lang, ils viennent toujours.
Oh, vous exagérez un peu.
C'est pas vrai?
Non.
pour Ségolène?
Non. Ouais, mais voilà. Je peux dire ça comme ça. Mais il a parfait.
La bande originale de Lise Husset, on vous a demandé ce que vous écoutiez comme musique, notamment quand, en 1973, tout enfant, vous aimiez les Beatles. A Day in the Life, c'est pas non plus le plus gros succès.
Mais je suis pas sûre, je vous ai donné ça, ouais, peut-être, mais.
Si.
Ouais. Non, mais en fait, j'ai écouté tout, moi, tout. Le bleu, le rouge, le blanc,
les Beatles,
tout. J'ai appris à parler anglais avec les Beatles, j'adorais les Beatles.
Vous êtes plutôt McCartney ou Lennon?
Plutôt Lennon, mais bon, les fins. Non, les deux. Enfin, j'avais quand même entre 10 et 14 ans.
Oui, hein. Non, je l'ai dit, j'étais trop petite, mais.
Bon, enfin, voilà, j'ai adoré ça, j'ai écouté ça longtemps, et j'ai appris à parler anglais avec eux. Si j'ai un pas trop mauvais accent anglais, c'est grâce aux
Beatles.
Et à mon père.
Vous décidiez, à l'époque, quand vous étiez enfant, vous rêviez de devenir vulcanologue.
Oui, justement,
au point, vous avez écrit une lettre.
À Haroun Tazieff.
Haroun Tazieff.
Qui m'a répondu. Trop sympa, et qui m'a dit, pour devenir volcanologue, ou vulcanologue, on dit les deux, faut que tu fasses une agrègue de maths et une agrègue de physique. Ça
vous a calmé.
Ça calme.
Mais tiens, si je faisais le 13h sur France.
Et je l'ai revu après, je l'ai interviewé après quand j'étais jeune journaliste. Et il m'a dit, moi en fait, je répondais toujours aux enfants et aux vieux. Et c'est tout, les autres, j'en avais rien à faire.
Non, mais c'est bien de répondre en tout cas déjà.
Adorable.
Vous avez passé votre enfance plutôt à l'extérieur, hein, vous disiez. Moi, je fabriquais des cabanes, j'allais cueillir des champignons.
Je suis même toujours une femme d'extérieur. Moi, je ne suis pas du tout une femme d'intérieur. À part la cuisine que je sais très bien faire et que j'adore. Mais sinon, je suis une femme d'extérieur, oui.
Mais il y a un côté baroudeur quand vous étiez... On vous taxait d'être un garçon manqué avant de devenir une femme réussie?
Ouais, enfin voilà, moi je pense qu'on peut aimer être baroudeuse. Et...
Je sais pas si la formulation.
On dirait Cookie Dingle.
Une femme réussie.
Bah, garçon manqué, femme réussie.
Ouais, c'est bien. Non, c'est vrai.
C'est pas si mal, non.
Accompli,
non, ça va.
C'est sa
réussie,
façon d'être féministe.
Le mot,
oui.
Excuse-moi, j'ai eu que deux secondes.
Oui.
Ça. Non, je suis animateur.
J'ai
120 mots. Je fais tout avec 120 mots.
C'est pour ça que je suis là.
Non, mais t'es fâché avec les topoïs.
Ouais, c'est les topoïs.
120 mots, ouais. Qu'est-ce que t'as fait les 80?
Non, mais baroudeuse, je le reste en plus. J'adore ça. Quand j'ai demandé à retourner sur le terrain pour Cash, c'est que j'en pouvais plus d'être enfermée dans un studio, dans une bulle. Moi, j'ai besoin d'aller au contact, j'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin de prendre des risques, j'aime ça.
Et alors, le déclic pour devenir... vous avez eu une carrière... Votre papa était prof d'anglais, c'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure, j'ai cet accent grâce à papa. Et à part cette carrière d'enseignant, c'est lui qui vous a transmis le...
Pas du tout.
Pas du tout, d'accord.
Non, alors, pas du tout.
Comment c'est venu le journalisme?
Maman en partie, parce qu'elle c'est une fan, une dingue de presse. Je pense que si, avec des gens comme elle, les journaux de presse écrits iraient très bien, parce qu'elle doit en lire 4 par jour, donc c'est bon. Et elle regardait Christine Ockrent avec vraiment beaucoup d'admiration, donc il paraît... Moi, je m'en souviens pas du tout, mais elle ne m'a jamais menti, donc je la crois, que je lui ai dit à vers 14-15 ans, mais un jour, je serai à sa place. Et je pense qu'en fait, je voulais faire plaisir à ma mère, quoi, que j'aime énormément, qui est une personne formidable. Et donc voilà, je pense que j'ai fait ça. Après, coup de bol, je rencontre les gens à Radio France. Merci Radio France. Et je suis tombée sur des gens qui m'ont formée, Francis Gauguin notamment, qui m'ont formée et qui m'ont fait découvrir le journalisme. J'avais 20 ans et là, juste la révélation. Formidable.
En 1983, vous écoutiez... Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? L'enfance était à Rouen, hein, j'ai oublié de le préciser.
Non, pas du tout, à Caen.
À Caen, pardon.
Né à Rouen. Mais ensuite...
Née à Rouen, ouais, enfance à Caen. Ouais.
Grande voyageuse.
Et... Non, ouais. Non, heureusement, on a beaucoup voyagé à part ça. Heureusement.
Et retraite à Pont-l'Évêque.
Non, j'hésite, les yeux peut-être, non, c'est pas mal les yeux.
Loin, ouais.
Et donc les premiers pas quand même sur France 3, quand, justement, ouais. Vous avez travaillé sous la direction d'Henri Sagnier, en 83.
Oui. Oui, en fait, j'ai d'abord bossé à Radio France en 83, et puis ensuite il y avait la télé au premier étage, la radio au rez-de-chaussée, donc j'ai un peu navigué entre les deux. Il y avait Henri Sagnier qui a été déterminant, parce qu'après il m'a fait venir pour le 19-20 à Paris. En fait, j'étais déjà à Paris, il m'a repéré à nouveau à Paris, il m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais là? Viens, je fais un truc super, ça s'appelle le 19-20. Je te signe un contrat de pige de 5 jours. Je suis restée 15 ans.
Autre musique que vous écoutez et autre moment fort dans votre vie, humainement et professionnellement, en 2009, vous écoutiez du Mozart. J'aime bien de passer Clash à Mozart, c'est ça, ouverture d'esprit.
Ah mais Mozart, moi...
Vous écoutez la musique à quel moment d'ailleurs dans votre vie? À la maison, dans la voiture?
Partout.
Comment?
Partout, à la maison, dans la voiture, un peu partout. Mais en fait, il y a des choses qui m'accompagnent vraiment. Enfin, les Clash m'ont toujours accompagné, les Cure m'ont toujours accompagné, Mozart m'a toujours accompagné, Bach m'a toujours accompagné, voilà, c'est... Et puis la musique classique à la maison, il y en avait, donc pour nous, c'était pas un truc... c'était que ça faisait partie de la vie, c'était là.
Vous travaillez à l'époque pour pièces...
Puis ce concerto pour clarinette, il est juste top. Hein.
D'accord. Je n'y suis pas, je suis d'accord avec vous. Pièce à conviction. Non, mais je voulais juste parler d'Hervé Guéquière et oui. Stéphane Taponnier, puisqu'ils étaient reporters pour pièces
ça a été un
à
moment
conviction. Et ça a été un moment fort dans votre vie.
Fort, d'abord très difficile, parce qu'Hervé et Stéphane ont été enlevés en Afghanistan et qu'ils ont passé un an et demi en détention. Et croyez-moi, quand vous êtes patron d'une émission et que vous avez deux des vôtres qui sont en détention pendant un an et demi, vous y pensez tous les jours, tous les matins, tous les soirs, quand vous...
Quel sentiment on a justement d'injustice, de
culpabilité, ouais. De se dire mais moi je me couche dans mon lit douillet, où est-ce qu'ils sont en ce moment, est-ce qu'ils ont à manger, est-ce qu'ils ont froid, est-ce qu'ils sont vivants,
alors, qui pour les remplacer, voilà.
Non, salaud, ça c'est toi ça.
Le planning, oh, Dieu personnage.
Non, vous au contraire vous étiez très proche des familles jusqu'à leur libération.
Oui. Enfin ça a été un moment dans ma vie où il y a eu pas mal d'épreuves et très franchement quand Hervé et Stéphane ont été libérés, j'y ai vu comme la fin d'une très mauvaise série noire, vraiment. Et voilà, je salue Hervé, qui est toujours un envoyé spécial avec nous, qui est un très grand journaliste. Je salue Stéphane, qui est dans le sud de la France, lui, et qui est toujours journaliste aussi. Mais franchement, ce moment de libération, on a tous pleuré. Et voilà, c'était vraiment un des moments dans ma vie où je me suis dit, ah, ça y est, je respire à nouveau.
En 2012, c'est l'énorme succès et toujours actuel de Cash Investigation. Vous écoutiez. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Rag and Bone Man. Don't put your blame on me. Monsieur formidable en plus. Humainement, il est formidable. Ouais. Il était aide infirmier pendant des années, accompagné des enfants handicapés à soutenir et se battre contre l'autisme. Et il en a écrit des textes, notamment cette chanson Human. Mm. Vous vous plaignez de vos problèmes quotidiens, les vrais problèmes sont à l'heure, on est
il
tous
est formidable.
Ouais.
Et moi, ce morceau, il m'a attrapé à la première écoute. C'est vraiment, première écoute un matin dans la voiture à la radio, j'ai dit waouh, c'est quoi ce truc? Et depuis l'album est sorti, parce que ça c'était en décembre à peu près, ouais, le titre, ouais. Et depuis l'album est sorti, et l'album il est top quoi. Et là où je suis assez fière de moi, c'est que quand même à Cash Investigation, il y a un paquet de jeunes, on va dire.
Vous leur avez fait découvrir.
Et je leur ai fait découvrir ça. On était en tournage en Suède pour aller faire Monsieur Ikea, et on faisait une battle dans la voiture avec nos iPhones en faisant chacun des morceaux, et à un moment je leur ai dit, maintenant vous écoutez ça. Et là, 4 mois après, ils m'ont rappelé en disant « Waouh, on vient d'acheter l'album, t'avais hyper raison, c'est top, on adore !»
C'est dur le métier de journaliste, des petits blind tests en voiture avec Élise Lucet.
Ah mais attendez, en Suède, pour aller voir Monsieur Ikea, il y a 400 bornes.
C'est
pas tout près.
Parlons de Cash Investigation, parce que c'était ça bouleversait aussi le mode de travail du reportage, du journalisme. Vous avez vraiment insufflé quelque chose de passionnant, où vous êtes obligé, en tout cas ça c'est le fan et le téléspectateur qui parle, vous êtes obligé d'envoyer du lourd chaque fois. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver avec un Cash Investigation, avec on a fait une enquête dans un... Il faut du dossier... lourd, gras, qui fasse celui de la FIFA dont je vous parle à chaque fois. Oui. À chaque fois que je la croise, je dis, mais il faudrait revoir, rediffuser aujourd'hui.
Ils sont plus là d'ailleurs.
Le cash investigation qui avait été fait avant que la FIFA n'implose. Et en fait, tout était dans Cash Investigation avant que tout éclate.
Enquête de Martin Boudot sur le foot et Cash, c'est vraiment la volonté à un moment. Moi, je fais pièce à conviction depuis des années. Je trouve que les communicants ont pris une place énorme. Que en gros, on nous dit quand est-ce qu'on a le droit de faire une interview, qui on a le droit d'interviewer,
quelles questions on a le droit de poser,
ouais,
quel sujet on ne doit pas évoquer. Voilà.
Mais c'est bien, ça vous donne un cadre.
Oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. Sauf qu'à un moment, le cadre il devient très étroit et on nous dit aussi très souvent, Monsieur Machin ne souhaite pas vous répondre. Et là, bon.
Mais quand vous rentrez dans un restaurant pour parler à un grand patron ou à un homme politique.
Il y a des gens qui se lèvent, qui règlent l'addition et qui s'en vont en courant.
Mais est-ce qu'il y a aussi de la sécurité? Est-ce qu'il y a aussi des coups d'épaule? Est-ce qu'il y a aussi...
Oui, bien sûr. Oui. Ça mais aussi. Moins maintenant parce qu'ils savent que tout est tourné. Donc, il y a eu beaucoup. Il y a une caméra qui a été jetée par terre par un monsieur de Apple, un ex-monsieur de Apple. Il y a eu des choses comme ça, bien sûr. Moi, j'ai été bousculée.
Parce que la caméra,
ça.
C'est une Samsung, je supportais pas l'idée.
Mais franchement, par rapport à tous les reporters qui sont en Syrie ou en Irak, moi, des risques, j'en prends pas. Hein. Donc, c'est pas là-dessus qu'il faut insister. Mmh. Je pense c'est sur le moment où on réussit par une enquête d'un an. C'est-à-dire que là, autour de moi, j'ai Emmanuel Gagné, Romain Verlet, mes deux rédacteurs, j'ai mon équipe, et ça, tout le monde bosse pendant un an sur chaque enquête. Donc ça veut dire qu'au bout d'un an, ben, on accumule des documents qui peuvent devenir vraiment très ennuyeux pour une entreprise, pour un politique, mais ça, c'est que du boulot.
Est-ce que ça, c'est le luxe du service public, c'est-à-dire d'être totalement détaché des lobbies, des grands réseaux et de la pression commerciale avec, si vous dites du mal d'IKEA, d'Apple, de Coca-Cola ou d'Haribo, je vous attaque et j'en retire ma pub.
Réponse sans hésiter, oui.
Vous avez une totale liberté.
Oui. Total. Moi, je vois Delphine Ernotte, je lui fais ce qu'on appelle ma liste de courses à peu près une fois par mois, une fois tous les deux mois.
Vous la préparez aux ennuis qu'elle va avoir?
Exactement, je la préviens, mais c'est le minimum hein, de dire à sa patronne, écoutez, voilà, on est en train d'enquêter là-dessus. Donc, vous allez recevoir des lettres recommandées, des coups de téléphone de ci, de là. On enquête vraiment sur ce dossier très précisément. Donc, soyez bien au courant de tout. Et je la tiens au courant de tout pour qu'elle soit préparée à tout ça. En échange de quoi, elle me dit, allez-y.
Et la justice.
Et elle me le dit pas qu'à moi, elle le dit à mes équipes aussi.
Et la justice, Élise Lucet.
Et la justice, eh ben écoutez, là, on a
vu boulot d'investigation, tout ça, c'est un travail colossal. Oui. Comment est-ce qu'il y a des relations qui s'établissent, ça donne suite d'un point de vue judiciaire,
Alors d'abord, chaque émission est visionnée 4 à 5 fois par notre conseiller judiciaire, Virginie Marquet, qui regarde toutes les émissions, mais mot après mot. Hein, elle nous fait parfois changer quasiment une virgule en nous disant non, là, ça va pas, ça tu peux aller en diffamation. Donc ça a beaucoup surpris, je crois, le monde des affaires et même le monde politique. Mais surtout le monde des affaires. Parce que très souvent, il y a des patrons qui nous ont dit « Ah non, mais alors vous allez voir ce que vous allez voir, on va vous attaquer. » Et puis après, ils donnent le DVD à leur conseil, à leur avocat. L'avocat regarde et l'avocat dit « Ah, ça va être un tout petit peu difficile parce qu'ils y ont pensé avant. »
Vous avez eu zéro.
Il n'y a pas motif d'attaque.
Vous avez eu zéro.
Il y a très peu d'attaques, mais on voit quand même, pour répondre à Leïla, et ça c'est un peu inquiétant, on voit dernièrement qui a des volontés de la part de Monsieur Bolloré, de la part du patron de Lactalis de nous attaquer. Alors, Bolloré, c'est complément d'enquête, Lactalis, c'est envoyé spécial, et qui est une réponse à « ça suffit maintenant, vous allez beaucoup trop loin, donc on engage des procédures judiciaires ». Après, vont-ils gagner, vont-ils les perdre? Nous, on fait à chaque fois tout ce qu'on peut dans les émissions pour qu'ils les perdent. Mais ils jouent sur une menace qui est une menace à la fois judiciaire, financière et qui nous fait perdre du temps. Et ils le savent très bien.
Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui doivent vous filer des informations. Et ça, c'est important parce que le cash est devenu aussi une référence. Donc on peut se dire, tiens, s'il y a un truc à dénoncer, on accumule les documents en interne que les journalistes ne pourraient pas se procurer.
Comme on appelle le canard enchaîné.
Mais c'est ce qui s'est passé pour le LuxLeaks, en fait. On fait une première émission sur l'évasion fiscale. Et là, Raphaël Allais voit cette émission. Il est dans son canapé, chez lui, avec sa femme. Il travaille pour PricewaterhouseCoopers au Luxembourg. Et il regarde ce premier truc et il dit « Mais c'est dingue, c'est là où je bosse, en fait. » Et il se dit qu'il a accès, parce qu'effectivement, il est dans une pièce très stratégique, où il voit passer tous les accords, qui sont des accords fiscaux. Il se dit « Mais... moi aussi, je pourrais être lanceur d'alerte. Mm-mm. » Et il prend contact avec nous. Et c'est comme ça qu'on sort la deuxième affaire, LuxLeaks. Parce qu'effectivement, il a vu le premier cash investigation. Il s'est dit, Édouard Perrent est un garçon qui travaille très bien. Il est sérieux. Donc, je lui fais confiance. Et on a bossé avec lui pendant un an.
Il nous écoute depuis l'hôpital.
C'est quand le prochain cash?
Alors, le prochain cash, c'est à la rentrée. Parce qu'on en a 6 par an. Donc, c'est pas aussi régulier que ça. Mais nous, on veut pas en avoir plus. Parce qu'il nous faut du temps pour faire des vraies bonnes enquêtes.
Et donc, évidemment, ça sert à rien que je vous demande sur quoi vous
travaillez. Ah non, rien du tout.
Voilà.
Vous avez peur pour votre sécurité, rapidement?
Non.
Non, jamais?
Non, non. D'abord, la peur n'écarte pas le danger. Et puis, non.
Enfin, ça n'empêche pas de l'avoir.
Non, encore une fois, je prends beaucoup moins de risques que les gens qui sont en Syrie ou en Irak. Enfin, voilà, il faut rester raisonnable. Et puis, je pense être protégée par une vraie grosse entité qui est France Télévisions. Si j'étais journaliste pigiste toute seule dans mon coin à faire des 52 minutes d'enquête, je prendrais beaucoup plus de risques. Là, s'attaquer à moi, c'est quand même s'attaquer à France Télévisions. C'est un gros morceau.
Mais on peut s'attaquer en revanche aux rédacteurs, aux journalistes.
Oui, mais enfin, là, moi, je suis là pour les protéger. Enfin, pas que moi d'ailleurs. France Télévisions.
Nous avons demandé, il prend des risques en venant cette émission, d'ailleurs, à Jacques Monin de venir.
J'ai extrêmement peur.
Bah, il est directeur des enquêtes et d'investigation depuis juillet 2016. On a commencé ensemble à Radio France en 83. Enfin, la même date en tout cas. Envoyé spécial permanent de Radio France.
J'adore les Beatles aussi.
Voilà.
Mais tous les trois, alors, on a commencé à 83.
83 aussi?
Mais oui.
Vous pas nous chanter une petite chanson des Beatles?
Moi aussi, j'ai commencé.
Non, toi, tu es né en 83.
Ça va.
Et aujourd'hui,
vous animez Secret d'Info, une émission hebdomadaire de la direction des enquêtes de l'investigation sur France Inter. C'est tous les samedis.
Excellente émission.
Merci. C'est gentil. De 13h20 à 14h, ça sera le Dieselgate, hein, le numéro que
absolument.
Vous préparez pour ce
samedi. Oui, vous allez découvrir des choses parce qu'on a beaucoup parlé du Dieselgate pour les voitures, notamment pour Renault, maintenant PSA, Fiat, il y en a d'autres et tout ça dans le sillage du scandale Volkswagen, des constructeurs qui sont débrouillés en gros pour que leurs voitures polluent beaucoup moins sur les bancs d'homologation que dans les conditions réelles en route. Et d'ailleurs, on se demandait pourquoi il y avait un différentiel entre le taux de pollution qui continue avec ces pics de pollution qu'on continue de connaître,
alors que les
voitures sont censées être de moins en moins polluantes. Et ben non, en fait, elles sont toujours aussi, sinon plus polluantes. Mais il n'y a pas que les voitures. Il y a aussi les camions. Et là, on s'y est pas intéressé pour l'instant. Et derrière les camions, il y a aussi des choses très bizarres et très anormales qui se déroulent. Et là, on a potentiellement un scandale.
Il y a les bus de la ville de Paris aussi.
Ils sont en train d'investir.
Ils en ont encore commandé au diesel.
Faire simple, si vous voulez, il y a des transporteurs. Je peux vous donner une information. Il y a des transporteurs routiers qui achètent des boîtiers qui permettent en fait de déconnecter les dispositifs de dépollution. Il y a eu des études qui ont été faites parce qu'en France, on s'est absolument pas intéressé à la question. Mais en Allemagne, il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent que 20% des poids lourds, vous imaginez ce que ça représente, déconnectent ce dispositif et donc polluent plein pot. Et là, il y a
c'est
vraiment un scandale en puissance.
Ouais, bonne voilà. Et ça arrive à un moment où, justement, puisqu'on parlait tout à l'heure d'Emmanuel Macron, d'un président qui veut le zéro diesel, puisque c'est ce qu'il avait annoncé également.
Bah, il serait temps, parce que de toute façon, le diesel, on s'en rend compte, quoi qu'on fasse.
Pardon, il a tellement été aidé aussi et promu ce diesel.
Absolument,
j'étais arrivée chez PSA. Ils me mettent la voiture sur le banc d'essai, machin, me disant « Oh, regardez, c'est magnifique, ça pollue pas, nouveau filtre à particules, etc. » Et moi, je m'étais procuré un petit boîtier auprès d'une association anti-pollution. Et je dis « Ça vous embête pas que je fasse mes propres mesures derrière ?» Donc, je m'étais mise derrière le pot d'échappement et les types de PSA, ils étaient fous furieux. J'ai dit « Mais c'est bizarre, j'obtiens pas du tout les mêmes chiffres que vous, que se passe-t-il »
Mais ce qui est dingue dans cette affaire, c'est que...
Ils avaient dit que nos chiffres étaient bons et les leurs étaient faux.
Non, mais ce qui est dingue, c'est que dès 2005, et là, nous, on a le témoignage d'une journaliste qui, en 2005, avait fait publier un papier dans lequel elle racontait tout, les logiciels tricheurs, des voitures, tout ce qui se passe sur les bancs.
Mais ça n'avait pas fait écho.
Zéro écho. C'est-à-dire que ça n'avait donné aucune suite.
Alors justement... Quand on a fait cash, franchement, on montre vraiment la tricherie. Et ils le reconnaissent, ils disent à l'antenne, mais oui, non, mais c'est en fait, on est obligé de dire que ce sont vos chiffres qui sont les bons et pas les nôtres. Donc on voit bien que le banc d'essai de la voiture donne des chiffres qui sont faux, mais ça n'a pas donné suite. Il a fallu le scandale Volkswagen.
Le scandale Volkswagen. Il a fallu aussi les chiffres qui montrent aujourd'hui qu'il y a un rapport direct entre l'oxyde d'azote et des décès, et de nombreux décès par milliers d'ailleurs.
On va écouter Jacques. On va écouter l'émission samedi. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment une cellule d'enquête d'investigation en radio fonctionne. Il y a une équipe de journalistes enquêteurs.
Oui, on est une équipe d'une dizaine de personnes dans laquelle il y a 5 journalistes enquêteurs dont la mission c'est effectivement d'aller sur le terrain, de fournir des enquêtes. Alors,
est-ce que c'est plus facile quand on travaille avec le son, moins de moyens.
Voilà. Alors oui, il y a des côtés plus faciles que la télé parce qu'effectivement vous êtes plus discret, vous approchez des gens, il y a pas la question du floutage, etc. Nous on a résolu ça par on fait lire parfois les propos de certains interlocuteurs dont on protège l'anonymat.
Est-ce que vous savez d'autres journalistes cachés?
On essaie d'éviter. On ne le fait que, justement, dans le Dieselgate, vous verrez, il y en a un. Parce qu'à un moment donné, quand vous voulez révéler une vérité et que cette vérité émane de quelqu'un qui est un escroc, il ne vous la dira jamais. Donc, si vous voulez pouvoir la montrer, il faut effectivement pouvoir le faire. À ce moment-là, vous l'anonymisez pour effectivement qu'il ne soit pas directement mis en cause. Mais sinon, on ne peut pas donner l'information. Donc, on le fait, mais dans des cas très particuliers.
Pareil pour cash.
Est-ce que le voilà alors justement j'allais dire comment vous vous placez l'un vis-à-vis de l'autre, est-ce que vous
on se parle beaucoup
Oui, enfin on a fait une émission encore ensemble juste avant Noël, je veux dire il y a quand même une solidarité et puis un partage de valeurs qui sont celles du service public. Moi je me reconnais tout à fait dans ce qui a été dit tout à l'heure et dans ce qu'a dit Élise. Après il y avait je crois un vrai déficit à la radio d'investigation. Le service public de télévision était en avance sur nous, c'est une évidence, et puis il y avait une tradition dans la presse écrite, notamment Hebdo, mais pas seulement, hein. Le Monde fait de très belles enquêtes. Nous à Radio France et à la radio d'une manière générale, il n'y avait pas cette dimension d'enquête qui nécessite beaucoup de moyens et beaucoup de temps.
Juste une dernière question à tous les deux d'ailleurs. Quel est le premier journaliste d'investigation de l'histoire du journalisme d'investigation? Est-ce qu'on peut donner le nom? Est-ce qu'il y en a un qui a été l'initiateur de ce mode de fonctionnement et pas simplement éditorialiste?
Moi, j'ai pas investigué là-dessus, mais c'est
Albert
sûr que...
Londres.
Oui, non, ouais. Albert Londres peut-être, mais c'est sûr que le Watergate ouvre quelque chose.
D'où le gate systématiquement rajouté.
Peut-être,
dans toutes
oui.
les affaires.
Et
il y a
alors
des
moi,
gates partout.
Ce que je voulais dire quand même, parce que quand est-ce que vous entendez bien, alors bien sûr qu'on s'entend bien, et même plus qu'on s'entend bien, c'est qu'il y a une vraie nouveauté dans le journalisme d'investigation. Avant, c'était des gens seuls qui bossaient dans leur coin. Maintenant, on est une communauté, on travaille ensemble. Il y a l'ICIJ, donc qui est le
consortium des journalistes.
Voilà, ouais. D'investigation qui travaille ensemble. Et c'est comme ça qu'on sort les Panama Papers, c'est comme ça qu'on sort des vraies infos mondiales. Et c'est beaucoup plus dur de s'attaquer à 450 journalistes qu'à un seul.
Jacques Monin, merci pour cette visite.
Merci
et on écoutera avec intérêt et passion Diesel Gates dans votre...
Dès demain matin, 7h15 d'ailleurs, sur France Inter.
Ah bon, d'accord.
Bah oui, vous savez, il y a toujours un extrait de l'émission.
C'est ça, et après, ça sera 13h20 samedi. Pardon, d'accord. Okay. Non, après l'émission, ce sera 13h20 samedi.
Vous saurez l'essentiel du pitch. Du pitch, comment
du pitch.
Le pitch.
Merci Jacques.
On va pas se quitter fâché, Nagui.
Oh, c'est pas
mais
notre genre.
Mais ça suffit, hein.
C'est pas notre genre. Ça saurait, puis depuis...
Il a rendu l'antenne en riant. Il rigolait.
Ouais. On en reparle tout à l'heure, Nagui.
Aucun journaliste autour de cette table n'a respecté mes ordres et mes conseils, je vous assure. Je faisais des signes dans tous les sens. Elle revient.
Elle commandait à boire, oui.
Elle reviendra vous informer et ça sera, comme je le dis souvent, tout le temps à l'heure pile, toute l'après-midi, puisque ça ne sera plus moi à l'antenne. Laetitia Gaillet pour l'info tout à l'heure. À l'heure et à 13h, le journal. Merci Laetitia.
À tout à l'heure.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadour-Boudaïdi, Guillermo Gris, Albert Agou, Daniel Morin,
bravo Daniel,
Élise Husset, qui est notre invité.
Élise.
C'est un sacerdoce de faire envoyé spécial, cache investigation, de faire votre métier, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'horaire, il vous reste quand même quelques amis, quelques moments de vie personnelle.
Non, c'est un
plaisir,
vous rigolez, la chance que j'ai, vous imaginez la chance que j'ai, cache investigation, envoyé spécial, deux émissions mythiques de France 2.
Mais si vous voulez aller au concert de Rag & Bone Man, vous ne pourrez pas
It's
forcément.
It's gonna be difficult.
Voilà.
Mais non, c'est pas un sacerdoce, parce que en fait, je m'ennuie jamais, j'ai fait ce métier au départ pour ça, en me disant, j'aimerais bien trouver un métier où je m'ennuie jamais. Je me suis jamais ennuyée. Je m'ennuie toujours pas. Après, c'est des sacrés paris, c'est difficile. Parfois, on se plante, on réussit. Voilà, on réussit pas toujours tout. Mais non, j'adore ça. Et puis, franchement, avoir ces deux émissions-là à France 2, dans le service public, défendre ça à l'antenne, moi j'ai l'impression d'être la tête de gondole, parce que derrière il y a des équipes, il y a 50 personnes derrière, envoyé spécial, cache, complément d'enquête, c'est 50 personnes. Et donc voilà, je suis pas toute seule, je suis tête de gondole certes, mais j'adore être avec ces équipes, travailler avec elles et produire des émissions de qualité, je l'espère, à l'antenne. Enfin,
c'est
on fait
le
tout
cas,
pour,
c'est
en
le cas,
oui,
absolument, c'est une réussite. Ce soir, il
ce
y
soir
aura...
c'est bien ou pas
en... Oui, c'est,
oui, c'est super bien,
c'est
mais
bien.
Vraiment. Hein.
Bien. Non, mais
il y a interro, alors interro par texto vers 23h. Je vous pose des questions sur les trois.
D'accord. Il y a En Marche vers l'Élysée, le documentaire de Bertrand Delay sur
Emmanuel Macron,
mais surtout sur plusieurs mois avec des interviews incroyables. Il y a une interview que vous repassez qui a été faite au ministère
à Bercy en 2014.
Voilà, à Bercy, au ministère des Finances, lorsqu'il y était en 2014, et où tout ce qu'il dit dans l'interview, et c'est même pas un montage de l'interview, c'est presque en une phrase,
oui,
il résume tout.
Il explique l'implosion incroyable des partis traditionnels.
Et la dernière interview, je me demandais, elle date de quand, la dernière interview? Alors, parce qu'on a la sensation qu'il commente même sa victoire au lendemain de sa victoire.
Alors, il y a eu deux interviews faites vraiment dans les tout derniers jours par Bertrand Delay, une le vendredi précédent le second tour et une juste après le second tour. Donc voilà, il y a vraiment, on va au bout avec lui. Ouais. C'est ça qui est aussi intéressant. Et encore une fois, entendre le principal acteur raconter son élection et comment il l'a pensé, parce qu'il l'a vraiment pensé, et sa stratégie, c'est rare, c'est des moments rares en télé.
Comment il parle avec ses troupes, la jeunesse de ses troupes d'ailleurs, le dynamisme qu'il y a autour.
En même temps, il est jeune lui-même.
Oui, mais il pourrait aussi avoir des espèces de,
cheveux blancs.
Ou les éléphants d'un parti ou d'un autre. C'est pas du tout le cas, et il les motive, et c'est presque un coach sportif. Puisqu'on parlait des yeux dans les bleus tout à l'heure, il y a le côté Aimé Jacquet qui parle aussi à ses joueurs en disant il faut rien lâcher, c'est maintenant qu'il faut y aller.
Parce que ce documentaire prouve et qu'on ressent, c'est qu'en fait cette envie, je pense, il l'a depuis longtemps, qu'elle s'est forgée au fur et à mesure des années, parce qu'en étant au gouvernement, il s'est dit lui-même qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, ça a été clair, hein, puisque la première loi travail devait être portée par lui, que finalement elle a été portée par Myriam El Khomri, qu'il y a eu le 49-3 pour sa loi à lui, la loi Macron, et je pense qu'il y avait une détermination forte à bousculer ce paysage politique français, que lui trouvait complètement mis dans de l'antimythe, et il voulait absolument faire bouger les choses. Après, est-ce que c'était en étant président ou pas, mais on sent cette détermination incroyable. Ouais. Donc quand il motive ses équipes, c'est que ça vient de loin, de très loin.
Il y a également un sujet qui s'appelle le FN à la conquête de l'Ouest, un document d'Élise Menant et d'Yvan Martinet sur ces électeurs, ou en tout cas ces régions où il y a des électeurs en Bretagne, dans le Limousin, dans le Médoc, pour comprendre si cette conquête de l'Ouest est une réussite ou un échec. Est-ce que c'est une réalité ou un doux rêve de ce parti d'extrême droite? Les enfants perdus du califat, un reportage de Sovia Amara. Je soulignerai en plus dans la dureté et l'horreur de ces images, la beauté de la réalisation et de la mise en image, avec un effet graphique aussi pour autour des enfants.
Un télécole.
C'est extrêmement élégant.
C'est
du beau travail. Ouais. Et avec un fond, évidemment, vous l'aurez compris, totalement passionnant, inquiétant, mais passionnant, avec une petite lueur d'espoir de certains qui viennent sauver ces enfants. Encore une fois, des enfants kidnappés, et pas forcément des enfants musulmans. Il y a aussi l'histoire d'un petit garçon catholique. Petite fille catholique est kidnappée, et sa maman en larmes montre les photos de cette petite fille blonde. Et ça doit être, imaginez l'horreur d'une maman qui dit, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont la laisser grandir pour qu'elle ait 9-10 ans, et après
qu'elle devienne une otage sexuelle. Il faut en parler.
C'est horrible.
Ces enfants de musulmans, de chrétiens, ils sont souvent de toute façon enlevés à leur famille, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur confession. Ils sont enlevés à leur famille, enrôlés. Il y a vraiment cette propagande qui petit à petit les transforme complètement. On en fait des bombes humaines. Et après, ces enfants, on les récupère encore une fois dans des camps de réfugiés où ses opposants vont les rechercher, les arracher aux griffes de Daesh. Mais ce sont des enfants détruits, mais
et
vraiment.
Et les sauve en les intégrant à nos sociétés occidentales, et on voit l'enfant se trouve en Allemagne,
oui,
et qui dit que son rêve est d'apprendre à parler l'allemand et de travailler, de s'intégrer.
Mais je trouve surtout qu'il les sauve souvent en reformant des morceaux de famille.
Oui,
c'est-à-dire que les familles ont été complètement éclatées par Daesh. Le père est là, la mère est là, on ne sait pas s'ils sont morts, vivants, et en fait, ses opposants font déjà un travail incroyable qui essaie de refabriquer un petit noyau familial.
Et ils ont la pudeur d'ailleurs de ne pas vouloir non plus que les effusions familiales et les retrouvailles soient filmées.
Ouais.
Tout ça, vous le verrez ce soir dans Envoyé spécial à partir de 20h55, porté par Élise Husset et son équipe de 50 journalistes, documentaristes, monteurs et mixeurs, parce qu'il y a tout un travail qui est fait.
Heureusement, parce que
son,
sans équipe, on fait rien, ouais, hein, comme dirait Michel Drucker.
Faut toujours citer Michel Drucker.
Ouais, toujours
citer Drucker.
Ça mange pas de pain.
Ou Didier Deschamps, ça dépend.
Ça, c'est toi, ça. Mais moi, je suis rugby, moi, je suis pas fou.
Merci, Élise. Merci pour venir plus souvent.
Il n'est pas sur France 2.
C'est compliqué.
Serge Blanco, alors. Voici l'humeur de Daniel Morin, qui n'est pas du tout équipe.
Non, pas du tout, rien à foutre.
Très perso.
Mon Dieu. Qui aurait cru qu'un jour l'élection d'un homme entraînerait autant de chaos? Personne. Nobody. Et pourtant, force est de constater que l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron est un séisme permanent depuis dimanche soir. Emmanuel Macron, qui sera un des sujets d'Envoyé spécial ce soir sur France 2, 21h50. Alors, ce séisme, bien sûr, Christian Estrosi a été touché. Il quitte son fauteuil de président de la région PACA. PACA. On n'abandonne pas PACA comme ça. PACA, c'est une région mythique. PACA, une région forte. PACA, aux valeurs séculaires. PACA, au folklore mondialement reconnu et souvent, très souvent, jalousé. C'est en PACA qu'on a inventé la bouillabaisse.
Ah oui.
C'est en PACA qu'on a inventé la pisse saladière.
Oui, la ratatouille aussi.
C'est en PACA qu'on a inventé les santons. Et bien sûr, c'est en PACA qu'on a inventé la corruption. Eh ben, Estrosi, il se barre. Une force mystique l'a poussé à quitter ce job de rêve. Cette force mystique, j'en suis sûr, c'est Macron. Non mais soyons sérieux, il va faire quoi maintenant, Estrosi, hein? Il va faire quoi, le gars? Il n'a pas de formation, il n'a jamais vraiment eu de métier. Il va faire quoi? À part vendeur de panini sur la promenade des Anglais, honnêtement, je ne le vois pas briller ailleurs. Son départ est très très bizarre. Tout comme le départ de Marion Maréchal Le Pen. L'avenir tout en blondeur du Front National claque la porte. Why? Là, elle se dit que c'est pour passer plus de temps avec sa fille. Bullshit. Bullshit. Horse crap. Quand t'as un gamin en bas âge, ta préoccupation première, c'est pas comment faire pour passer plus de temps avec lui, c'est comment faire pour avoir du temps pour toi. Et au FN, les nounous, ça ne manquait pas. Tous ces garçons sympathiques et baraqués aux cheveux courts qui chantent cet air gay et entraînant.
On est chez nous! On est chez nous!
Merci Maréchal. Eh bien, je suis sûr que Marion aurait pu confier sa fille en toute confiance à un de ces types qui, de par son comportement et ses idées, aurait par ailleurs su inculquer à la petite des valeurs de respect, de droiture et d'art de vivre à la française. Non, là encore, le départ de Marion Maréchal, c'est incompréhensible. Je suis sûr que c'est l'influence de Macron. Et Jean-Christophe Cambadélis. On en parle de Jean-Christophe Cambadélis?
Pas la peine, c'est un con.
Oui, calmez-vous, Maréchal. Jean-Christophe Cambadélis, le patron du Parti Socialiste. Vous avez vu la gueule qu'il tire depuis 4 jours? Depuis Macron? Avant-hier, quand il a parlé des législatives. À tes souhaits. On sentait que le gars.
Il a fait une énergie.
Il y croyait pas du tout. Il y croyait pas. Hein. Ça m'a ramené 6 ans en arrière, quand les socialistes disaient à propos de l'affaire Strauss-Kahn: Dominique, faire ce genre de choses? Jamais de la vie, on le connaît bien, c'est un type trop respectueux. Pareil, ça sentait tellement faux. Non mais à la fin de son allocution, Cambadélis, j'ai cru qu'il allait craquer, qu'il allait enchaîner. Pour finir, je lance un appel. Alors voilà, je cherche du boulot, je m'appelle Jean-Christophe, j'ai pas particulièrement de qualifications, j'ai un niveau anglais terminal B, j'ai le permis de conduire en voiture, transport en commun moins de 8 places et poids lourd plus de 5 tonnes. Je suis immobile géographiquement, j'ai une passion pour le bilboquet. J'ai été champion junior du Val-de-Marne en 64, catégorie bilboquet grosse boule. Je cherche tout genre de travail, hein, coursier, assistant de vie ou alors, et croyez-moi, je connais le boulot, emploi fictif. Question salaire, je suis pas gourmand, hein, je saurais me contenter de 9000 voire 8000 euros. Je sais pas combien est le SMIC, mais en gros, ça va être dans ces eaux-là. Alors pour la bagnole de fonction avec chauffeur, là je vous le dis, je m'en fous, hein, ça peut être une Jaguar, une BM, tout me va. Hein. Je suis pas le mec compliqué, hein. Bien sûr, je suis prêt à coucher si ça aide. Maintenant, est-ce que vous voudrez? C'est là la question, pour ne pas dire le problème. Appelez le standard de Solferino, j'étudie toutes les offres. Moi, je dis qu'on peut pas laisser un homme dans la misère comme ça. En même temps, les socialistes n'ont pas fait grand-chose non plus pour endiguer la misère. Manquerait plus que le phénomène touche aussi le service public et que certains d'entre nous finissent sur une radio privée. Mais
oh
là,
non,
parce que là, ce serait le pompon, mais j'y crois pas une seconde. Non. Allez, à demain.
Europe 1 Gate.
Non, pas possible.
Sur France Inter.
Pour Élise Lucet, qui vous proposera ce soir donc envoyé spécial, nous avons aussi un brouillon culture spécial et pour
oui.
elle.
Et là, Élise Lucet, je sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous, Élise.
Nous avons rendez-vous au siège de Microsoft France. Nous sommes attendus par Marc Mossé, directeur des affaires juridiques, depuis 10 ans. C'est lui qui établit les contrats avec les ministères français.
Monsieur Mossé, comment allez-vous? Équipe de Cash Investigation est là.
Bonjour,
Sandrine. Ça va? Désolée, on ne va pas se tutoyer aujourd'hui.
Ah mais on ne se tutoie pas.
On va se vouvoyer.
Eh bien, on se voit, chacun est dans son rôle.
Absolument.
C'est un extrait de votre enquête sur le grand dérapage des marchés publics dans Cash Investigation. Et en fouillant dans les contrats conclus entre Microsoft et des ministères français...
Dans le ministère de la Défense.
Vous êtes tombé sur une vieille connaissance, Marc Mossé, directeur des affaires juridiques de la société américaine en France. Alors je vous demanderai pas si vous avez perdu d'autres amis ou vous avez perdu...
Je l'ai pas perdu.
D'accord. Parce que tomber sur quelqu'un
étonnant.
Qu'on connaît...
En fait, on le savait, vraiment, il le savait qu'on venait l'interviewer. Et à un moment, on avait Microsoft dans le viseur sur les contrats qui étaient passés avec le ministère de la Défense. Et voilà, à un moment, toute mon équipe me dit, bon, appelez Microsoft. En fait, c'est sûr, la personne que tu vas interviewer, c'est bien Marc Mossé et c'est bien de tes meilleurs amis. Ah, bon, ok. Et là, ils m'ont tous dit, mais tu préfères ne pas faire l'interview? J'ai dit, ah ben non, c'est là même que ça va devenir bien.
Évidemment.
C'est là qu'il faut prouver que, justement, il n'y a aucune confusion des genres et que, amis ou pas amis, on est
et
pareil.
C'est vous qui dites, on va maintenant se vouvoyer, pas se tutoyer.
Absolument.
On et le soigner dès le début, pour pas qu'il y ait de confusion.
De vous à moi, il était un peu sur les dents, parce que c'est vrai que je pense que n'importe quel responsable d'entreprise est un peu sur les dents quand il voit débarquer Cash. Il savait qu'on venait ce jour-là, hein, l'interview était calé. C'est un exercice pas évident d'interviewer son ami, mais en fait, franchement, je pense qu'à la première seconde, enfin première minute, je dirais, ok, je me suis complètement isolée, mis dans ma bulle de journaliste, et c'était, je déroule mes questions, et que ce soit toi ou pas toi en face, c'est pareil.
Mais c'est pas dur d'interviewer un ex?
Pas à sa connaissance.
Parfait, non. Mais je pourrais essayer.
Mais je me demandais parce que dans mon entourage, par exemple, c'est devenu.
Élise, ne répondez pas.
Non,
c'est
mais si, j'aime répondre à Daniel.
Les journalistes répondent.
Élise, dans mon entourage, c'est devenu une blague. C'est-à-dire que dès que quelqu'un essaye de planquer un truc, on dit fais gaffe, Élise Lucet va surgir. Et donc, limite, on pourrait avoir un petit panneau avec votre visage et on pourrait hop le faire sortir du dessous de la table. Je me demandais si justement vos proches vous regardaient un peu différemment.
Bah dans la vie, je suis pas comme ça du tout. Alors bon, à la fois j'ai ce côté très très rigoureux, très moi je fais le boulot pour les téléspectateurs et donc je vais jusqu'au bout. Ça c'est vrai, je l'ai toujours eu ce truc là. Mais moi je suis plutôt une rigolote dans la vie, donc il y a un côté bon, allez hop, je mets mon costume de Cash et là j'y vais et à ce moment-là, il y a
on va pas vous raconter genre qu'on a oublié de déclarer un truc sur
Non, il y a plein de gens qui non mais ce qui est rigolo, c'est que parfois il m'arrive de rentrer dans des endroits et je vois qu'il y a des gens qui font
c'est pour toi.
Et je suis là, je me dis, tiens, il n'est pas clair, lui. Il a un truc à casser, lui.
Pour plus tard. Non,
j'ai en tête, alors pardon, je ne sais plus qui était cette dame, mais vous faisiez une interview sur la pollution. Il y avait une dame dans un bureau, et au fur et à mesure que vous lui disiez,
oui.
Votre boîte fait ci, fait ça,
oui,
vous rendez compte.
Oui, c'était Angie. Angie pour une centrale qui était en Australie.
Et elle se met pratiquement à pleurer, c'est-à-dire qu'elle se...
Non, elle pleure pas, mais
non.
Elle est pas bien.
Mais elle est bouleversée, oui. Et elle se sent coupable.
Oui, parce
que... Et elle le dit même, elle dit oui, c'est vrai, on a commis
oui,
une erreur.
Oui, parce que c'est une centrale où il y a eu un incendie pendant plus de 40 jours, où il y a une pollution absolument affreuse dans cette ville, et où des gens ont été ensuite engagés par Angie pour dépolluer le site. Ces gens ont travaillé sans aucune protection, le monsieur s'est retrouvé avec une capacité pulmonaire réduite de 60%, voilà. Et je lui montrais le témoignage de ce monsieur, les photos, tout ça.
Elle était pas bien quand même.
Après, si vous voulez, moi, là où je trouve que c'est pas super, c'est quand on envoie un lieutenant répondre à Cash et c'est pas le patron qui y va. Parce que le lieutenant, il se retrouve un peu dans
c'est infusible,
une
c'est infusible qui saute.
Ouais,
c'est
son boulot. Voilà. Ben non, moi je trouve que c'est le boulot du patron et que c'est justement dans ces cas-là qu'il faut être patron.
Ça fait quoi comme effet de représenter la terreur absolue pour des milliers de DRH humainement? On le vit comment?
Alors ce qui est rigolo, c'est quand même qu'il y a des boîtes de com maintenant qui ont monté des formations anti-Lucet.
Ouais.
Et donc, qui proposent aux entreprises.
C'est pas ça le must.
Comment s'en sortir face à Lucet en interne?
Ça nous a quand même beaucoup fait marrer dans toute l'équipe. Et voilà. Après, encore une fois, moi je suis la tête de gondole de la terreur, entre guillemets. Mais les miens dans mon équipe, ils sont pas mal non plus. Hein. Quand ils vont en interview, ils dégagent aussi tous mes journalistes de Cash et ceux d'Envoyé Spécial aussi. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça a changé les rapports. C'est-à-dire qu'au début, j'étais la gentille journaliste présentatrice du 13h. Et puis, pendant la première année, on enregistrait tous les Cash d'une année. Alors là, tout le monde me voyait. Ah, comment allez-vous? Super,
bonjour,
on est
madame.
Très contents, bonjour.
Et, l'année
d'après, c'était où est la porte de sortie d'urgence? Vite.
Exfiltration.
On avait dit qu'on sortait de la promo.
Et oui, mais alors... justement, j'y viens. Ah, pardon, c'est vous pardon. Qui entretenez. Moi, oui. J'ai arrêté de poser mes questions.
Et là, pour une fois, c'est pas Laïla qui déborde.
Eh ben voilà. Merci beaucoup, Élise. Je poursuis avec un autre son pour vous.
Une rose rouge dans le grenier.
Super.
Une rose rouge en papier, un peu fanée. Mais au bout de la rose, il n'y a plus ma grand-mère. Elle s'en est allée. De belles roses qui piquent pas. Il n'y en a pas plus que ça.
Une rose rouge, une chanson de Eusèbe,
oui.
Ou plutôt de...
Michel Lucet, mon papa.
Et voilà.
Et ça a été quelque chose de très important en fait dans notre vie, parce que mon père a toujours joué avec les mots, alors en chanson, en texte, en poème, il le fait toujours aujourd'hui d'ailleurs.
Il écrit des romans.
Oui, et... Il y a Sonia De Villers qui me fait coucou là-bas. Salut. D'accord. Sonia. Et voilà.
Ah, c'est elle, Sonia De Villers.
Et du coup, si vous voulez, la maison, ça a été quand même pas du tout une maison classique. Il y avait des musiciens à la maison, il y avait du monde, il y avait d'autres chanteurs, il y avait Pierre-Nicolas, le bassiste de Brassens, qui venait accompagner papa. Donc c'était assez joyeux. Et puis, je pense qu'il nous a vraiment appris à jouer avec le langage. Et que finalement, le métier que je fais n'est pas du tout étranger à ça. Parce que le langage, mm-hmm. chez nous, même encore aujourd'hui, quand on est tous à table, ça part, ça fuse de tous les côtés. Voilà, on joue avec, quoi. On adore ça.
Et donc, il a écrit des romans. Un roman qui a été traduit en 3 langues chez Gallimard. Mmh. C'était Divisé par deux, qui a été adapté pour un téléfilm oui. passé sur Antenne 2. Oui. Et justement, on vous parle toujours de l'actu. Donc, je voulais vous en sortir pour vous parler de votre rapport à la culture. Parce qu'à la fin de votre 13 heures, Élise Lucet, oui. vous aviez toujours une part importante consacrée oui. à la culture.
Oui,
c'était aussi une marque de fabrique du 13 heures de France 2. Et ça, c'était important. Quelle cinéphile, quelle lectrice, quelle cultureuse êtes-vous?
Je suis un peu nulle en cinéma parce que j'ai une petite fille et que voilà, j'ai plus trop le temps d'aller au cinéma. Bon, alors parfois je me rattrape en regardant des trucs sur
il y a VOD maintenant.
Voilà, voilà. Mais bon, c'est pas bon. Je suis plutôt une grande lectrice. Je lis pas mal.
Mm-hmm. Même pas pendant les téléfilms comme genre House of Cards.
Si,
mais c'est vrai. Ça, j'adore. Politique.
Non, mais voilà. Non, mais ça j'adore. Bon, voilà. J'adore certes ces séries-là, je plonge dedans, j'adore, et puis je suis capable de m'en manger 4 épisodes les uns derrière les autres, oui, sans problème.
Mais en littérature,
mais
c'est
cinéma,
plutôt quoi
cinéma. Ouais. Là, je suis dans Elena Ferrante, ouais.
Et une voilà. prodigieuse.
Oui, voilà. Donc là, je suis là-dedans, mais je suis assez éclectique en fait. J'écoute beaucoup de critiques, justement à la radio. Moi, je suis une grande fan de radio, donc j'écoute beaucoup de critiques. Et en fonction de ça, hop, je vais dans une librairie. Puis après, j'ai un bon libraire aussi. Mmh. Et donc régulièrement, je vais chez mon libraire et il me dit si ça, il commence à me connaître. Voilà, mais c'est vrai que le refuge du livre et donc du calme et du silence en fait, parce que nous on est dans des métiers où ça, il y a tout le temps du bruit, des gens qui parlent, voilà. Et le refuge de l'heure de lecture où il n'y a plus un bruit et où on est seul dans son univers, dans son imaginaire, ça c'est génial, j'adore.
Et ben justement, pour finir, un livre, alors c'est pas un roman, c'est Histoire du terrorisme de Gilles Ferragut aux éditions Perrin.
Ben vous allez vous régaler.
On a reçu Gilles Ferragut dans cette émission, il était absolument brillant, j'ai eu l'occasion de parcourir son livre. C'est une histoire du terrorisme, donc une histoire ancienne, une histoire complexe, qui est pluriséculaire finalement. Il dresse une forme de généalogie de ce phénomène. J'y ai pensé forcément en voyant hier soir les enfants perdus du califat.
Oh, bien sûr.
Il vous explique comment, à travers des confessions ou des générations, le terrorisme a pu se transmettre. C'est un mot quand même qui est apparu au XVIIIe siècle, à l'occasion de la Révolution française. Mmh. Et il part de ces éléments-là pour construire une pensée complexe et très intéressante sur le terrorisme, dont il est difficile de donner une définition, mais dont on peut essayer de cerner les contours.
Non mais ça c'est passionnant, hein. Moi j'adore, et nous quand on bosse sur des caches par exemple, c'est des bouquins sur lesquels on peut passer des heures à se documenter, parce qu'il faut avoir cette colonne vertébrale là avant de partir sur le contemporain.
Et c'est une vraie rhétorique armée au service voilà, des idées, c'est vraiment très intéressant.
Sarajevo, l'attentat de Sarajevo qui a bouleversé l'histoire de
l'Europe. La guerre, déclenchement de la guerre, ouais. Et il y revient justement.
Avant de se quitter, des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour nos auditeurs et amis membres de Daesh qui se sont sentis menacés physiquement par l'intrépide Nagui. Franchement, si vous voulez vous expliquer avec lui, hein, tranquille, nous on a mis l'adresse et le digicode sur le Facebook de l'émission. Désolé pour Patrick Cohen qui, après nous avoir écoutés pendant 1h30, écoutez cet hommage mérité aux valeurs et à l'émission de service public, se demande s'il n'a pas fait une connerie en déménageant rue François 1er pour travailler à RTL comme patron de Radio Courtoisie. Ouais, ouais, ouais. Écoute Patrick, t'es une place ici... Tu peux toujours changer d'avis et venir. Désolé pour Jack Lang, dont l'attrait pour les médias, les caméras était quelque peu brancardé. Franchement, c'est pas gentil. Hein. D'ailleurs, Jack, si t'as le temps, on n'a pas d'invité pour jeudi prochain. Note le vieux. Et désolé pour nos auditeurs qui avaient prévu, tranquille, de mater Pépère Alice Nevers sur TF1. Je crois qu'après avoir écouté cette émission, ils sont obligés d'aller sur France 2, 20h50.
Il n'y a pas le choix. Simplement une question. Est-ce que tous les caches d'investigation sont disponibles sur... Alors, ça s'appelle plus Plus, maintenant ça s'appelle France.tv. Est-ce qu'on peut tous...
Bah, en fait, on a une chaîne YouTube.
D'accord.
Voilà.
Et tous les caches sont disponibles,
oui,
et accessibles pour ceux qui ont raté.
C'est gratuit ou
C'est gratuit, service public.
Information.
Merci.
Non,
Élise.
Parce que sur Plus, c'est pas aussi long que ça, donc on a créé cette chaîne YouTube pour que tout le monde puisse regarder les enquêtes.
C'est fini, hein, Plus, maintenant ça s'appelle France.tv.
Oui, c'est vrai, absolument, depuis
notre nouvelle plateforme.
Ouais,
voilà.
C'est vrai.
Soyons corporels jusqu'au bout. Merci, Élise.
Merci
et
à vous.
Et bravo pour tout ce que
vous avez fait
jusqu'au bout.
C'est un plaisir, franchement, ça fait du bien.
Non, on peut l'applaudir parce que voilà, on a besoin. Journaliste comme Élise Lucet, ça fait plaisir.